Radio Kapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. La ville de Kinshasa et la coopération britannique s'engagent pour assainir la capitale congolaise. Le programme CHESIP ambitionne d'apporter des solutions concrètes et durables aux problèmes qui affectent le quotidien des Kinois. Le début hier à Beni du forum provincial sur la problématique des rebelles des ADF. Occasion pour les participants de réfléchir sur des stratégies à même de mettre fin à ce mouvement ougandais affilié aux islamistes et qui tue sur le sol congolais depuis 2013. Malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février, les hostilités n'ont pas cessé dans l'est du pays. Ce sujet était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais hier soir. Dans ce journal, quelques interventions des invités. Bienvenue à cette édition du journal. Face aux défis croissants liés à l'urbanisation, aux déchets, aux inondations et à la mobilité, la ville de Kinshasa s'engage dans un projet pilote appuyé par la coopération britannique à travers un programme dénommé GESIP. C'est une initiative qui ambitionne d'apporter des solutions concrètes et durables aux problèmes qui affectent le quotidien des Kinois. Quel regard les autorités urbaines apportent-elles sur l'exécution de ce projet et pourquoi est-il important pour la population? Écoutez Tom Kisenda, coordonnateur de la cellule de développement urbain de Kinshasa. Il est au micro de Jocelyne Moussa Opondé.
Le programme GESIP tombe à pic par rapport aux défis de la ville de Kinshasa, surtout l'urbanisation. Kinshasa n'est pas ce qu'elle a été il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 60 ans. Il y a 60 ans, Kinshasa ne comptait que 400 000, 500 000 habitants. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 millions et Kinshasa est aussi confronté à des problèmes écologiques, les précipitations, les eaux pluviales. Et c'est ce qui cause tous ces problèmes que le programme GESIP est en train de chercher comment solutionner, notamment le problème de la gestion des déchets et aussi la mobilité et tout ce qui est lié aux inondations, au drainage. Tout ce qui est fait, c'est la planification. Tout planifiant, puisqu'un projet commence par une idée, un projet, c'est la préparation. Nous sommes en train de préparer, en fait, le terrain pour Kinshasa. Avant que la population voie le résultat, il faut qu'on travaille. Gérer les déchets, la mobilité, ça demande un grand travail en amont. Sans ce travail, on ne saura pas trouver des solutions.
Mais alors, en quoi ce projet pilote se distingue des autres appuis et classiques au développement urbain? Écoutez la réponse de M. Peter, chargé de mission à l'ambassade britannique. Il est lui aussi au micro de Jocelyne Moussa Opondé.
Cette initiative pilote se distingue par son orientation pragmatique et opérationnelle. Elle ne se limite pas à la production d'études. Elle vise plutôt à fournir des solutions rapides mais durables, quick wins. Elle s'appuie également sur une collaboration étroite avec les institutions locales afin de garantir que les interventions proposées répondent directement aux besoins. L'ambition globale est de mettre en place une approche intégrée qui soit testée, validée, puis réplicable dans d'autres quartiers de Kinshasa et dans d'autres villes du pays. L'appropriation de ces solutions par les autorités congolaises sera essentielle pour instaurer la confiance et attirer de futurs investissements.
Et à Matadi, des jeunes de la communauté U-Report se mobilisent pour lutter contre l'insalubrité. Ils ont mené le week-end dernier une vaste opération d'assainissement dans les communes de Nzanza et Mvunzi, une action inscrite dans leur programme U-Action et alignée sur les objectifs de développement durable. Nana Plurich-Mambou nous en parle.
L'intervention a ciblé l'axe routier situé entre la bifurcation Kiamvu et le rond-point Nzanza à proximité de l'école Mas les Savants. Selon les organisateurs, cette partie de la ville fait face à une accumulation importante de déchets. Les caniveaux régulièrement obstrués empêchent l'écoulement normal des eaux, entraînant des débordements sur la chaussée et exposant la population à divers risques sanitaires. Face à cette situation, les jeunes ont choisi d'agir bénévolement pour contribuer à la préservation de la santé publique et à l'amélioration de la voirie. Fortuna Lumbu, team leader de la communauté U-Report Matadi.
Parce qu'on a eu à constater qu'il y a beaucoup d'insalubrité à ces niveaux. Les caniveaux sont bouchés. Alors que nous savons, les insalubrités ont des conséquences néfastes à la santé de la population. Et donc, c'était très important pour nous de mener cette U-Action, cette activité, pour assainir ces liés et pour préserver la santé de la population.
Déterminés à poursuivre leur engagement, les jeunes e-report annoncent déjà d'autres descentes dans plusieurs quartiers de Matadi, siège des institutions provinciales, dans l'objectif de promouvoir un cadre de vie plus propre, plus sain et plus durable. Pour rappel, e-report est une plateforme numérique gratuite mise en place par l'UNICEF. Elle offre aux jeunes un espace d'expression et de participation citoyenne sur les questions qui touchent leur quotidien. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Le forum provincial consacré à la problématique des rebelles des ADF est officiellement ouvert depuis hier matin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Les participants, dont les forces de sécurité congolaises et ougandaises, la MONUSCO ou encore la société civile, émettent le vœu de voir enfin des stratégies concrètes pour en finir avec ce mouvement rebelle qui a provoqué la mort des milliers d'innocents depuis 2013. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Nous ne lâcherons rien. C'est par ces mots que le gouverneur du Nord Kivu a conclu son allocution ce lundi à l'ouverture du forum de la paix à Beni. Pour le général Evariste Kakule Somo, initiateur de ce forum, la population de cette partie du territoire congolais mérite de vivre en paix.
Les ADF continuent de tuer des femmes, des enfants, des personnes de troisième âge. Nos soldats tombent sous le drapeau. Des casques bleus de l'ONU ont versé leur sang sur ces terres. Tout ceci à cause des ADF. Habitants du Nord Kivu, je veux vous le dire simplement. Nous ne lâcherons rien.
Pour le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bouji Sangara, qui a ouvert les travaux, ce forum est considéré comme un élan de recherche des solutions durables. De son côté, la chef de la police de la MONUSCO, représentante spéciale adjointe intérimaire du secrétaire général des Nations Unies, chargée des opérations, a réitéré l'engagement de la mission des Nations Unies aux côtés des autorités congolaises pour éradiquer ces phénomènes pour une meilleure protection des civils. Mamouna Ouedraogo.
La MONUSCO reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement congolais. Nous continuons à travailler en coordination avec les FADC, la PNC et l'ensemble des services de sécurité afin de vaincre cet ennemi commun.
Ce forum de trois jours va se clôturer ce mercredi. Marc Marofimbo, Beni, Radio Okapi.
Et en lien avec la tenue de ce forum provincial consacré à la problématique des ADF, une première à l'échelle provinciale et nationale, les attentes des populations sont nombreuses. Les participants espèrent que ces assises déboucheront sur des stratégies concrètes et durables pour la neutralisation définitive de ce groupe armé allié à l'État islamique et actif au Nord Kivu ainsi qu'en Ituri. Les détails avec Martial Papimukeba.
Parmi les participants à ces forums figurent des femmes tuées, enlevées ou réduites à l'état d'esclavage sexuel dans les campements de ces rebelles. Les femmes sont considérées comme les premières victimes des ADF. Justine Massika, activiste des droits des femmes au Nord Kivu et participante au forum, souhaite que ces assises aboutissent à une prise en compte de la dimension communautaire dans la lutte contre les ADF.
Les armes ont des limites. Les armes ne sont pas une solution. Puisque les opérations étaient des opérations armées. Mais pour chercher la vraie paix, il faut une paix communautaire. Il faut que la communauté soit vraiment impliquée dans la recherche de la paix, puisque c'est cette communauté qui souffre.
De son côté, John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, espère l'adoption d'une stratégie commune et inclusive pour mettre fin à l'activisme des ADF.
Les communautés vont sensibiliser leurs membres de ne pas continuer à collaborer avec les ADF. Notre attente est que ces ADF doivent être éradiqués. Ça fait maintenant plus d'une décennie qu'ils sont en train de tuer sauvagement la population.
Les travaux du forum se clôturent ce mercredi. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle au Sud Kivu, les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi ont convenu de rouvrir depuis hier la frontière commune entre Bujumbura et Uvira. Le trafic a immédiatement repris à la grande satisfaction des populations des deux pays voisins. Les petits commerçants se disent particulièrement satisfaits. L'ouverture des postes frontaliers de Kavimvira et Gatumba constitue un soulagement majeur pour la population d'Uvira au Sud Kivu, restée coupée de Bujumbura, la capitale burundaise, depuis l'occupation temporaire de la ville par l'AFC 123 le 10 décembre dernier. La Fédération des entreprises du Congo FECOVIR exprime à la fois satisfaction et inquiétude. Les tracasseries douanières devraient cesser, souligne un opérateur économique influent au sein de la Fédération qui a souhaité garder l'anonymat. On écoute au micro de Jean Kassami.
L'ouverture de la frontière Kavimvira et Bujumbura apporte beaucoup de soulagement à la population de Vira, surtout aux petits commerçants transfrontaliers. Ils s'approvisionnent au Burundi, ils vendent au Burundi Avec la fermeture de la frontière, ça avait causé beaucoup de difficultés. Maintenant, quand la frontière est ouverte, vraiment, ça apporte un soulagement à la population d'Ouvira. Tellement qu'on est en train de demander au gouverneur de pouvoir lutter contre les tracasseries, lutter contre la multiplicité de services au niveau des frontières, pour qu'il y ait les services acceptés qui vont œuvrer à la frontière. Il faudrait qu'il y ait facilité de traverser, qu'il y avait beaucoup de taxes à payer. C'est ce qu'on est en train de solliciter au niveau des autorités provinciales, au niveau des autorités de la mairie.
Dans la province du Maniema, les enseignants des territoires de Lubutu, Kailo, Opangi et Punia seront désormais payés par Trust Investment Development, TID. L'annonce a été faite par le directeur provincial de la Direction nationale de la préparation de la paix des enseignants et des agents administratifs du bureau scolaire d'Inakope Maniema. Jori Ngandumwana Lukengo a confirmé qu'à ce jour, cette banque procède déjà au paiement des salaires de janvier 2026 via M-Pesa. Les enseignants obtiennent ainsi gain de cause après plusieurs manifestations réclamant la délocalisation de leur paix, jusque-là assurée par la Caritas vers une autre institution bancaire. On écoute Jori Ngandu au micro de Florence Kiza.
Il y a maintenant la délocalisation de la paie des enseignants. Jadis, les enseignants du territoire de Pangi, de Kailo, Lubutu, étaient payés, jadis, par la Caritas. Et pour le moment, suite aux démarches menées par les ministres provinciaux, les syndicalistes ainsi que les autres autorités provinciales de Maniema, vu la souffrance passée par les enseignants de ce territoire, de l'intérieur de la province, où pour toucher leur salaire, il faudrait passer 2-3 mois, tout ça avec des retards. Les enseignants ont crié. C'est ainsi que les autorités ont pris le courage, n'est-ce pas, de descendre à Kinshasa, mener des lobbying pour que les effectifs de ces enseignants-là soient délocalisés de la Caritas vers une autre banque payeuse capable de payer les enseignants régulièrement. C'est pourquoi la TID, Trust Investment Bank Development, a eu cette chance-là de recevoir les effectifs des enseignants de ce territoire pour être payés. Alors, la TID nous avait confié l'identification de ces enseignants et on l'a fait. Au moment où je vous parle, le mois de janvier, c'est la TID qui a commencé à payer les enseignants depuis hier à travers leur compte M-Pesa.
Ici à Kinshasa, la coordination provinciale du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République dénonce le vandalisme dont a été victime son siège de l'interfédération de Tchangou, situé dans la commune de Kimbanseke, ici dans la capitale, la nuit de samedi à dimanche. Une attaque qu'elle attribue à des membres de la Force du Progrès, structure proche du parti au pouvoir. Dans une déclaration faite hier lundi à la presse, Mike Mokeba Nkoso, coordonnateur provincial d'Ensemble au parti de Moïse Katumbi, condamne ce qu'il qualifie d'acte d'intolérance politique visant l'opposition. Il interpelle le président de la République ainsi que la communauté internationale. On écoute Mike Mukeba au micro de Grace Hamzati.
Ce qui nous indigne, nous choque, c'est l'indifférence, la passivité de la police à côté, mais plus encore qu'une banderole suscite une telle réaction. Vous vous rendez compte à quel niveau les gens sont devenus intolérants? Vous vous rendez compte dans quelle mesure Félix Tshisekedi laisse faire l'intolérance à ce point dans la capitale? S'il en est ainsi dans la capitale et ailleurs, où il n'y a pas de couverture médiatique autant qu'à Kinshasa ici, où il n'y a pas autant de réseaux sociaux qu'à Kinshasa ici. Donc la banderole affichée devant l'immeuble a attiré les courroux de l'UDPS au point de planifier une opération nuitamment pour enlever cette banderole, pour vandaliser les sièges. La banderole à l'effigie de Katumbi. Donc imaginez-vous si Katumbi s'est présenté donc à Tchangou sans une sécurité renforcée, ce qui peut lui arriver. D'un côté, on dit condamnons la violence, condamnons l'agression. Nous, de l'autre côté, qui avons fait le choix de mener la lutte démocratiquement à main nue, voilà les traitements qu'on nous réserve sous M. Félix Tshisekedi. C'est choquant.
En réaction, Gustave Lutumba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, rejette ces accusations. Il affirme que les auteurs de ces actes de vandalisme ne sont pas membres de la Force du Progrès. Selon lui, l'opposition chercherait plutôt à instrumentaliser ces incidents pour amplifier la crise politique en perspective d'un éventuel dialogue.
Actualité internationale.
L'armée éthiopienne vient de célébrer son 65e anniversaire au stade international d'Awassa. C'était devant le premier ministre plus qu'une simple commémoration, une occasion de montrer les muscles sur fond de vives tensions avec l'Érythrée. Addis Abeba accuse en effet Asmara de soutenir des groupes rebelles combattant l'armée fédérale, notamment dans la région d'Amara, parlant d'actes d'agression, ce que contestent les autorités érythréennes.
L'invité.
Malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février dernier, les hostilités n'ont pas cessé dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel publié vendredi, l'armée congolaise a dénoncé des attaques systématiques menées par la rébellion de l'FC M23 soutenue par les forces rwandaises au nord ainsi qu'au sud de Kivu. Ce sujet était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais hier soir. On écoute un extrait de différentes interventions des invités au micro de Guy Maté.
Willy Meshiki, vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes président du parti politique UNANA, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous analysez cette poursuite des combats en dépit du cessez-le-feu proposé par le président angolais?
Oui, nous avons une fois de plus été très déçus par les intentions malveillantes de l'armée rwandaise. Comme vous le savez très bien, ce cessez-le-feu, d'abord, a été très mal négocié. Nous croyons sincèrement que aussi, longtemps qu'on n'aura pas associé ceux qui sont sur la première ligne de front, notamment les Wazalendo, aucun cessez-le-feu ne pourrait avoir lieu. Rappelez-vous que plusieurs cessez-le-feu ont été annoncés depuis Doha, depuis Luanda, Washington. Aucun cessez-le-feu n'a tenu, puisqu'on n'a pas pris en compte les acteurs majeurs. Et je rappelle ici que les Wazalendo ne sont pas partie du gouvernement. Les Wazalendo n'ayant pas été associés, ça pose un problème. C'est ce qu'on a constaté.
Et donc, autant on a consulté le M23 et le gouvernement congolais, autant on devait aussi consulter les Wazalendo.
Oui, puisque toutes les parties en conflit, les Wazalendo, c'est l'émanation de la population. C'est une force qui existait même avant que ce gouvernement ne soit là. C'est une entité à part. Rappelez-vous que lorsque la communauté internationale a voulu chercher la paix durable, on a prévu deux processus. Le processus de Luanda, où le gouvernement de la République devrait rencontrer le gouvernement rwandais, et le processus de Nairobi, où les groupes armés, notamment les Wazalendo et l'AFC M23, devraient rencontrer le gouvernement de la République. Mais par une baguette magique, le lendemain, nous nous sommes réveillés, on retrouve que on a déplacé le processus de Nairobi vers Doha, et seulement un seul groupe, une seule entité a été prise en compte, notamment l'FC M23, en oubliant les Wazalendo. Alors que quand vous allez partout, si le front militaire, la première ligne de front, c'est sur les Wazalendo.
Et donc, vous voulez attribuer la poursuite des combats aux Wazalendo?
Non, les Wazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu. C'est tout à fait évident. Les Wazalendo n'ont pas violé ce cessez-le-feu. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés par les cessez-le-feu. Mais lorsque nous sommes attaqués, nous réagissons.
Merci, merci Augustin Bissimois. Vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDBC en sigle, parti de l'opposition extra-parlementaire. C'est quoi votre lecture du non-respect du cessez-le-feu proposé par le président angolais João Lourenço?
Je me dis que si le cessez-le-feu n'est pas respecté, et donc il s'agit là d'une faiblesse criante de mécanismes de suivi. Et je me dis, dès lors déjà, qui se pose un problème sérieux de mécanisme de suivi, cela va engendrer également l'absence de mesures contraignantes. Il faut aussi dire qu'il y a un problème parce que le gouvernement congolais, est-ce qu'il a les contrôles sur tous les groupes armés qui opèrent, n'est-ce pas, dans la partie Est? Je me dis qu'il y a un problème par rapport à ça. Même si le gouvernement congolais, à travers les FARDC, peuvent dire « nous nous respectons les cessez-le-feu ». Il faut retenir qu'il y a d'autres groupes, évidemment, sur lesquels le gouvernement n'a pas assez de contrôle. Et je suis choqué lorsque l'honorable Willy Meshiki dit que les Wazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu. C'est déjà un mauvais signe parce que l'honorable justifie de manière dangereuse la violation des cessez-le-feu et donne tant soit peu raison aux agresseurs de dire, voilà, ce n'est pas nous qui avons violé.
Henri Pacifique Maëla, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Et donc, il est tout à fait logique que les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé ce cessez-le-feu?
Tout à fait. Et ça, nous savons que c'est factuel. Au niveau du baromètre sécuritaire du Kivu, nous documentons les faits. Les incidents sont là. Autant il y a eu violation de cessez-le-feu immédiat du côté congolais. C'est vrai qu'à un certain moment, les efforts de cessez-le-feu sont retenus et ont respecté les cessez-le-feu. Mais par proxy, il y avait toujours des hostilités qui étaient déclenchées par les Wazalendo. Vous vous souviendrez, les frappes aériennes du 15 octobre, c'était le même jour qu'on signait l'accord de paix entre le gouvernement congolais et le M23 à Doha. De la même façon, le M23 a été aussi à la base des violations à multiples reprises de cessez-le-feu, et ce, depuis 2024, ou peut-être même un peu avant cela. Dire que les Ouazalendo n'ont jamais été consultés, ne sont pas tenus à respecter les cessez-le-feu auxquels s'engage la République démocratique du Congo, c'est effectivement ne pas s'inscrire dans cette logique de la paix.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro de Dialogue entre Congolais sur www.radiookapi.net et aussi sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Alain Hirung, mis en onde par Pierre Diessinois. Bonne journée à toutes et à tous, et toute l'équipe de Radio Okapi vous accompagne pour cela.